Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Les Voix de Service Magazine. On est vendredi le 3 novembre 2017. J'espère que vous allez bien. Nous, en studio, on va pas mal bien. Bonjour Hélène.
Bonjour Catherine.
Alors, est-ce que ça fait un peu bizarre que ça ne soit pas toi ce matin qui anime?
Non, pas bizarre, mais t'as la voix tellement plus chantante que la mienne.
On a décidé de faire un petit essai ce matin, de faire un échange, comme on dit.
Oui.
Et je crois que tu as préparé, comme à chaque fois, beaucoup d'articles pour nous. De quoi vas-tu nous parler?
Oui, ben ce matin, je vais entamer avec un grand récit de Noémie Mercier, en fait, une enquête qu'elle a faite. Je vous en parle tout à l'heure et je vais pas le dévoiler au complet aujourd'hui parce que c'est trop volumineux. Donc, en plusieurs émissions, vous allez connaître la suite.
Intéressant. Donc, tu nous tiens en haleine. Puis, oui. En plus de ça, il va falloir t'écouter la semaine prochaine.
Absolument. Ah.
Et sinon, moi, je vais continuer ma lecture de nouveaux projets. Nous sommes toujours dans le dossier qui se concentre sur le verbe s'informer, le numéro 12 du magazine. Et je vais entamer pour vous quelques lectures concernant l'appropriation culturelle et un peu de femmes dans les lettres et quelle est la place de la femme dans le milieu de la littérature. Donc voilà, on commence dans quelques instants. Préparez-vous.
Oui, eh bien, bonjour, Hélène Bédard au micro. Je vais donc entamer le texte suivant, c'est « Les mots qui libèrent ». C'est une méga enquête, un grand récit de Noémie Mercier qui a été publié dans la revue Actualité. Elles ont fraudé, cambriolé, tué, mais donnez-leur à lire et elles redécouvrent, un sens à leur vie. Notre journaliste raconte 6 mois d'immersion dans le club de lecture de la prison pour femmes de Joliette. Alors, un soir par mois, c'est mal parti. Autour de la table, la petite bande de détenues ne trouve rien de bon à dire sur le livre qu'elles ont lu ce mois-ci dans le cadre du club de lecture. À tour de rôle, elles prononcent leur verdict. Long et pénible, sans émotion, ouf, une corvée. Et pourtant, dans l'heure qui suivra, à force de discussions et de tâtonnements, ces femmes, au passé sombre, aborderont avec une finesse peu commune les thèmes les plus chers aux philosophes et aux historiens. Dans une cuisine défraîchie du pénitencier de Joliette qui est leur salle de réunion, chacune est munie de son exemplaire de « Guerre », un classique de la littérature canadienne-anglaise signé Timothy Findley. Cette histoire de jeunes soldats s'entretuant sous d'infinis ciels gris pendant la Première Guerre mondiale les amène à explorer la part d'ombre de la nature humaine. À comparer leur calvaire à celui de ces hommes devenant fous dans les tranchées boueuses, à se demander si placées dans le même contexte, elles auraient obéi aux mêmes ordres, commis les mêmes massacres, et si elles auraient su préserver, malgré la barbarie, un bout de leur humanité. En filigrane se dessine une question qui reviendra souvent sous une forme ou une autre. Pendant les heures que je passerai avec elles, portons-nous l'entière responsabilité de nos actes? D'avril à octobre 2016, j'ai assisté à 6 rencontres du club de lecture de la prison pour femmes de Joliette, près de Montréal. Une permission rarissime obtenue au bout d'un an de démarche auprès des services correctionnels du Canada. Donc, un soir par mois, elles sont une 15aine de détenues de tous âges, de tous antécédents, à se réunir pour échanger leurs impressions sur le livre choisi en compagnie de 2 bénévoles. Depuis la création du club d'avril 2014, elles ont lu de tout, des classiques, des romans historiques, de l'horreur, du Margaret Atwood, celui-ci a été un flop, de Mordecai Richler, le Comte de Monte Cristo, la BD Paul à Québec et Hunger Games. Elles en discutent dans un calme joyeux, traversé de pointes de tristesse ou d'amertume, mais le plus souvent ponctué de sonores éclats de rire. Dans un univers carcéral devenu ces dernières années plus écrasant et explosif, ces moments de communion autour de la lecture constituent un sanctuaire. Sans ça, on ressent les murs se resserrer autour de nous autres. C'est le seul temps où on a l'occasion de se sentir ailleurs que dans une prison, me dit Karine, membre de la première heure. Il existe 29 clubs dans les 43 pénitenciers fédéraux pour hommes et pour femmes au Canada, chapeautés par un organisme de bienfaisance établi à Toronto. C'est le Book Clubs for Inmates. Joliette est le seul établissement au Québec où cette activité est offerte. Partout dans le monde, des gens se mobilisent pour améliorer l'accès aux livres derrière les barreaux. Des clubs de ce genre, on en voit émerger aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Croatie, en Pologne et au Japon. Car la lecture est bien plus qu'un échappatoire pour des prisonniers en mal de distraction, c'est un puissant levier de transformation, un outil remarquable pour les préparer à réintégrer la société et à diminuer leur risque de récidive. Mais au Canada, le manque d'engagement des autorités carcérales menace ses efforts. Dans son plus récent rapport paru à l'automne, l'enquêteur correctionnel du Canada et Ombudsman des détenus expose les profondes lacunes en matière d'accès à la lecture et à l'éducation dans les pénitenciers du pays. Howard Suppers a occupé cette fonction pendant 12 ans avant de devenir conseiller du gouvernement ontarien en décembre. La majorité des gens qui purgent une peine fédérale vont un jour retourner dans la collectivité, m'explique-t-il en entrevue. À leur sortie, il faut que leur expérience ait servi à quelque chose et que la sécurité publique en soit renforcée. Ça coûte au-delà de 100 000 $ pour détenir un homme dans un pénitencier pendant un an et le double pour une femme. On doit s'assurer qu'on obtient le meilleur rendement possible pour cet investissement. Les femmes qui m'entourent ont tué, fraudé, cambriolé, fait du trafic de drogue, fricoté avec la mafia. Toutes ont écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans ou plus. Les sanctions plus courtes sont purgées dans des prisons provinciales. Ni moi, ni aucun visiteur ne peut rester seul avec elles sans être muni d'un bouton d'alerte portatif. Pour pénétrer dans l'enceinte, j'ai dû passer par le détecteur de métal, me faire ausculter la main à l'aide d'un scanner à ions, sorte de sonde qui décèle les traces de stupéfiants, et rester immobile pendant qu'un maître chien guidait son beagle renifleur autour de moi. Pourtant, une fois assise à leur côté, dans la cuisine au mur vert pomme, qui pourrait être celle d'un centre communautaire, j'en viens à oublier que je suis en dedans. Il m'arrive même de sursauter lorsque j'aperçois par la fenêtre l'imposante clôture en grillage, coiffée de barbelés, rappel glacial qu'ici on est coupé du monde. Je découvre une tribu bigarrée, plusieurs de ses membres déjà boulimiques de lecture, d'autres qui ne savent pas encore comment s'y prendre pour apprécier un livre. Il y en a des bavardes, d'autres plus éteintes, des élégantes, des boudeuses, des ricaneuses. Marie-Ève, femme pensive au teint blême, mais à l'œil vif, aime soulever des réflexions existentielles et citer les passages poétiques qu'elle a soulignés. Fais à noter, tous les noms que je vais nommer ont été modifiés à la demande de ces femmes par respect pour leur anonymat. Une autre, Joanne, dans la mi-quarantaine, hargneuse et tatouée, manquera quelques réunions lorsqu'elle sera envoyée au « trou », c'est-à-dire en isolement dans une cellule 23 heures sur 24. Sonia, amatrice de contes de chevaliers et de princesses, porte sur son visage les marques d'une vie rude et n'a pas tous les mots pour exprimer la pensée qui déboule de sa bouche édentée. Il y a aussi Clara, le début de la vingtaine, une humoriste en puissance qui aurait ce qu'il faut de vivacité pour partager la scène avec Louis-José Hood. Danielle, femme d'âge mûr, à la posture fatiguée, férue d'histoire et de généalogie, qui se présente parfois avec des notes griffonnées sur une feuille. Et l'incontournable Christine, la matriarche et leader du club de lecture, dont le regard malicieux abrite un puits de tristesse. Je vous poursuis la suite de cette immense lecture vendredi prochain.
Je vais continuer moi aussi, Hélène, avec la thématique femmes et lecture, pourquoi pas. C'est un article qui s'appelle « Des femmes et des lettres », c'est écrit par Maud Nepveu-Villeneuve. Et la description de l'article va comme suit. « Des voix s'élèvent pour dénoncer le sexisme que subissent les femmes dans de nombreux domaines, politique, musique, gastronomie. Le milieu littéraire québécois échapperait-il miraculeusement à cette iniquité rampante ?» Il y a 2 ans, Justin Trudeau présentait au Conseil des ministres paritaire à Rideau Hall. Parce qu'on est en 2015, a-t-il répondu simplement lorsqu'on lui a demandé de justifier sa décision. Le geste comme la formule ont inspiré un flot de chroniques sur la place des femmes en politique, de même qu'une réflexion plus large sur les sous-représentations dans divers domaines. Visiblement, la question de la parité était dans l'air du temps. Les initiatives visant à remettre en question le statu quo se sont multipliées ces dernières années. Des organisations se sont formées, dont les collectifs Femmes pour l'équité en théâtre et Femmes en musique, et des mesures concrètes ont été établies. Un exemple parmi d'autres, le patron de l'Office national du film, Claude Jolicoeur, s'est engagé à ce que 50% des productions de l'organisme soient désormais réalisées par des femmes, avec 50% des budgets. Le changement est en marche, avec ce que cela implique de réjouissance, d'inquiétude et de débats houleux sur les réseaux sociaux. Parallèlement, le Conseil des arts du Canada, acteur incontournable du financement de la culture au pays, vient d'achever la refonte de ses programmes de subvention. Dans la nouvelle mouture du programme de soutien, l'édition littéraire, on accorde une attention particulière, 30% de la note finale, à l'impact de la maison d'édition candidate, comprenant l'engagement de l'organisme à réfléchir dans ses choix éditoriaux, sa structure organisationnelle et le développement de son lectorat, la diversité du Canada, notamment en incluant les peuples autochtones, les groupes de diverses cultures, les personnes sourdes ou handicapées et les communautés de langues officielles en situation minoritaire. On ne peut que saluer ce choix du CAQ de mettre en lumière l'importance de la représentativité. L'homogénéité est un problème criant dans le monde littéraire, comme ailleurs dans le milieu artistique, à la télévision et au cinéma, par exemple. Même si l'usage du mot « notamment » ouvre la porte à d'autres groupes, on remarque toutefois un certain nombre d'absents dans cette liste de la diversité, à commencer par celles qui forment la plus grande part de l'électorat québécois, les femmes. Comme femme copropriétaire d'une maison d'édition, auteur et enseignante de littérature, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Aurions-nous atteint une certaine parité dans le domaine? Ou serions-nous si près de l'atteindre qu'il ne soit plus nécessaire de l'encourager artificiellement par un système de pointage? Ou s'agirait-il plutôt d'une omission troublante? J'ai posé la question lors d'un lancement et quelques-uns de mes interlocuteurs, des hommes, se sont empressés de valider la première hypothèse. Selon eux, les femmes sont publiées autant que les hommes. Elles remportent plusieurs prix littéraires et en dominent même certains. Elles sont aussi connues du public et autant invitées dans les médias que leurs collègues masculins. Et que dire des Marie-Claire Blais, Arlette Couture ou Marie Laberge? L'importance de ces figures dans le paysage culturel québécois ne témoignerait-elle pas du fait que la place des femmes dans le milieu littéraire est bien taillée, voire enviable? Devant tant d'assurances, il est facile de remballer ses doutes. Surtout quand on constate que la situation s'est nettement améliorée depuis Laure Conant, première femme à mener une véritable carrière de romancière au Québec à la fin du 19e siècle. La majorité de ses contemporaines n'ont pas échappé au destin que la société de l'époque leur réservait, soit le quotidien éreintant de ménagères sans indépendance financière ni lieu à soi, ces conditions considérées comme essentielles à l'écriture par Virginia Woolf. Conant, elle, a pu écrire, mais cachée derrière un pseudonyme et au prix d'un grand isolement et d'un courageux rejet des conventions. Quelques décennies plus tard, l'histoire de la fameuse « femme qui fuit », Suzanne Meloche, attesterait aussi de la difficulté à concilier création et pression sociale. Celle qui a côtoyé les signataires de Refus global a en effet choisi d'abandonner ses enfants pour se consacrer à son art. Ce n'est pas un hasard si plusieurs de nos auteurs majeurs ont en commun de n'avoir jamais été mères. Heureusement, celles du 21e siècle, comme les Kim Thuy, Geneviève Peterson, Fanny Britt, ont le loisir d'avoir tout à la fois, le succès populaire, la reconnaissance institutionnelle, la famille, les invitations à Tout le monde en parle. Et pourtant, la plupart des écrivaines d'aujourd'hui collectionnent les commentaires sexistes et les anecdotes outrageantes. Pensons à « Things only women writers hear », qui veut dire penser, voir les choses que seules les femmes écrivaines entendent. Elles se sont fait dire qu'elles créent des personnages féminins parce qu'elles ne comprennent rien aux hommes, que c'est grâce à leur physique qu'elles sont publiées, ou encore que leur livre est si réussi qu'on croirait qu'il a été écrit par un collègue. Se pourrait-il que les sions littéraires échappent miraculeusement à l'inégalité et que ces commentaires ne soient le fait que de rares masculinistes? Quelques recherches suffisent à confirmer que non. Et je poursuivrai cet article dans quelques instants.
C'était La Bronze, et pour ceux qui ont aimé cette chanson qui s'appelait Un balai de forêt, sachez que La Bronze participe au coup de cœur francophone dès le 6 novembre.
Merci Mathieu. Toujours Catherine Brunet au micro avec Hélène Bédard en studio pour les voix de Service Magazine. Et je poursuis mon article par Maud Desveux Villeneuve sur les femmes et les lettres. Dans une analyse du cahier littéraire du Devoir publié fin 2016, la professeure de l'UQAM Laurie Saint-Martin note: entre la première semaine d'octobre et la première semaine de décembre 2016, 68 % des comptes rendus publiés portaient sur un livre d'homme, 32 % sur un livre de femme. Elle souligne également que 87,5 % des pages couverture du cahier étaient, pour la même période, consacrées à des auteurs masculins. Quand on examine les différentes composantes de l'institution littéraire québécoise, on constate que ces statistiques sont assez représentatives de la place qui est accordée aux auteurs. Si celle-ci domine certains rares prix littéraires, comme le prix Adrienne Choquette et le prix littéraire du gouverneur général, catégorie romans et nouvelles, elle représente respectivement 66 % et 81 % des récipiendaires depuis 2006. Elles sont quasiment ignorées par plusieurs autres. Le prix des libraires et le prix littéraire des collégiens, les deux récompenses attribuées par les plus grands larges jurys, ont couronné deux et trois femmes depuis 2006. Le prix Émile Nelligan a été remis à quatre femmes pour la même période, alors que le prix Robert Clich en a honoré trois et le prix du gouverneur général catégorie essai, seulement deux. En 2016, les Salons du livre de Montréal et de Québec ont quant à eux sélectionné une majorité d'hommes pour le rôle d'invité ou d'invité d'honneur. Trois femmes et cinq hommes à Montréal, deux femmes et quatre hommes à Québec. De son côté, la liste annuelle des 100 titres incontournables de la littérature d'ici, compilée par Ici Radio Canada, comprenant 28 œuvres de femmes en 2015, 38 en 2016 et 35 en 2017, sans compter que les mêmes auteurs et leurs œuvres s'y retrouvent souvent d'une année à l'autre. Enfin, un examen des principales maisons d'édition littéraire de la province me pousse au constat suivant. Sur 25 institutions analysées, 64 % sont dirigées par des hommes, 28 % par des femmes et 8 % par un duo homme-femme. Si je n'ai pas été jusqu'à évaluer le catalogue de chacune d'entre elles, je note quand même que du côté de Boréal, un des chefs de file de l'édition littéraire au Québec, seules 5 des 33 œuvres publiées ou annotées pour 2017 sont signées par des auteurs E. Un comité de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois rassemblant des gens du milieu, dont moi-même, se penche justement sur la question de la parité en littérature afin de dresser un portrait plus complet de la situation. Paradoxalement, les femmes sont omniprésentes dans les programmes universitaires d'études littéraires à Montréal, où elles constituent la forte majorité de la population étudiante et la moitié du corps professionnel régulier. Comment expliquer alors qu'elles soient si peu représentées parmi les acteurs et actrices d'importance du milieu et que leurs œuvres ne soient pas davantage reconnues par la critique, les prix, les médias, voire par les programmes d'études eux-mêmes? Dans leur livre « Le bal des absentes », les professeurs Julie Boulanger et Amélie Paquet affirment qu'entrée de jeu qu'à l'école, on ne concède aux écrivaines qu'une place marginale. Leurs hypothèses qui peuvent expliquer le déséquilibre flagrant entre la composition des salles de classe et la réalité du milieu littéraire est la suivante. Les filles, en lisant à peu près uniquement des œuvres rédigées par des hommes, sont constamment réduites à voir la femme comme objet dans leur récit, souvent secondaire d'ailleurs. Comment pourraient-elles alors se penser comme sujet capable d'agir dans le monde? Enseigner strictement des textes écrits par des hommes laisse aussi croire que les femmes sont destinées à recevoir la parole plutôt qu'à la prendre. Inversement, on peut croire qu'en leur donnant à lire plus de textes d'écrivaines, on permettrait à ces jeunes femmes et à leurs camarades masculins de considérer l'histoire littéraire, mais aussi le présent et le futur d'un autre œil. C'est donc à l'école de se trouver l'une des sources du problème, de même qu'une partie de la solution. Comme enseignante, je me trouve là, où peut s'opérer le changement. Cela me réjouit, mais il reste que l'ampleur de la tâche est colossale. Transformer l'enseignement de la littérature, centre de gravité de l'institution, n'est pas chose facile. D'une part, c'est tout un système de perception qui se met à travers du chemin. On présume dès l'école primaire que les lecteurs masculins ne sont pas intéressés par des œuvres écrites par des femmes, ou qui mettent en scène uniquement des personnages féminins parce qu'elles évoquent des réalités qui ne les concernent pas. On reproche aussi à la littérature des femmes d'être trop intime, trop sentimentale, ou encore trop revendicatrice, voire frustrée. Virginia Woolf, elle-même, dans Une chambre à soi, déplore que Charlotte Brontë transpose sur son personnage de Jane Eyre, je crois, sa propre colère par rapport à sa condition féminine. Pour Woolf, la vision essentialiste selon laquelle il existe un cerveau d'homme et un cerveau de femme était un argument en faveur de la diversité des points de vue. Il fallait donner davantage de place au deuxième sexe. Or, cet argument a souvent fini par se retourner contre les femmes elles-mêmes, à qui l'on reproche d'écrire des livres de filles, ou de ne s'intéresser pas qu'à des sujets féminins. Les tables rondes auxquelles sont exclusivement invités des auteurs, eux, s'articulent à peu près toujours autour des thèmes comme le féministe en littérature, la bibliothérapie, l'amour, la maternité ou la vulnérabilité. On imagine mal des auteurs masculins se pencher sur cette dernière, tout comme il ne viendrait probablement pas à l'esprit de personne d'organiser une discussion entre des écrivaines sur les représentations de la guerre en fiction ou sur le roman policier. Pour enseigner des œuvres de femmes, il faut prendre le temps de les découvrir, de les analyser, de les maîtriser. Il faut repenser ses plans de cours, sortir de la périodicité pour réinventer le fil conducteur de ses corpus. Toutes des choses qui demandent du temps que plusieurs ne sont pas prêts à mettre. Sans compter que cette prise de conscience ne suffit pas à défaire des siècles de conditionnement. Pour avoir un réel impact, il faut aborder ce déséquilibre en classe et pouvoir compter sur une certaine concertation au sein des départements. Un seul cours de 15 semaines ne pourra malheureusement pas transformer des perceptions développées depuis des années, surtout si les suivants n'incluent pas ou peu d'œuvres de femmes et que le collège ou l'université n'invite que des auteurs masculins dans ces événements. Malgré ces obstacles, il nous reste pourtant la possibilité, comme souvent en enseignement, de semer des graines en espérant qu'elles germent dans l'esprit des étudiants et étudiantes, qui sont nos collègues écrivains et écrivaines, critiques, membres des jurys, éditeurs et éditrices en devenir. Ainsi, nous arriverons peut-être à quelque chose qui ressemble à la parité, et alors vraiment, nous n'aurons plus besoin d'encourager l'équité par un système de pointage. Et voilà, c'était un article de Maude Neveu-Villeneuve, qui est auteure professeure de littérature au Cégep du Vieux-Montréal et qui est copropriétaire des éditions de ta mère. Vous êtes toujours en compagnie de Catherine Brunet et Hélène Bédard pour les Voix de service magazine. Hélène, tu poursuivras en deuxième partie avec un article du Devoir.
Oui, je vais vous parler de l'ouragan hormonal. Je vais vous parler d'amour et d'amitié.
On a bien hâte, donc restez avec nous. Juste après cette courte pause publicitaire, on va poursuivre avec ce magnifique article du Devoir.
Il y en aura des plus belles que moi, juste comme des modèles, minces comme des ficelles, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aura des plus grandes comme les gratte-ciels, te donneront une plus belle lune de miel, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Mais si jamais tu tombes en amour, si jamais tu m'oublies dans ce détour, au moins pense à moi et quand tu visiteras d'autres bras, et n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Charmantes qui ne savent pas douter, qui seront envoûtées le temps d'une soirée, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aura des sensibles à fleur de peau qui sauront te percer sans dire le moindre mot, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Mais si jamais tu tombes en amour, si jamais tu m'oublies dans ce détour, pense à moi et quand tu visiteras d'autres bras, et n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Je te laisserai faire, je te demanderai pas de faire demi-tour. Mais quand tu seras avec une autre sous tes draps, n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi.
Il y en aura que nous chantait Caroline Savoie. Et si vous avez aimé, Caroline Savoie sera en première partie des Sœurs Boulay au Club Soda le 9 novembre.
Merci Mathieu pour cette suggestion.
De plaisir.
Il est présentement 9h35. Vous êtes dans cette deuxième partie des Voix de service magazine. Catherine Brunet au micro, accompagnée d'Hélène Bédard. Hélène, je te laisse poursuivre avec cet article que tu nous as introduit juste avant la pause.
Merci Catherine. Alors, c'est un article que j'ai pris dans Le Devoir. Ça vient de Josée Blanchette, fait le 27 octobre 2017. Elle intitule « De retour après la pause. Petit ouragan hormonal. » Quand la souveraine cinquantaine se rend visible et nargue notre regard en se dépouillant de ses artifices, 50, ben, c'est le nouveau 40. Avant, avec tout cela, nous avons oublié de souligner la journée mondiale de la ménopause. Pause des ménos. Le 18 octobre. J'allais vous en parler et puis Carré, moi aussi, est venu souligner la semaine mondiale de la pulsion hormonale et de la gonade dégoupillée pour rester poli. J'allais lever un autre tabou sur cette période de vie houleuse qui frappe les femmes dans la cinquantaine et certaines bien avant, ces créatures au pinacle de leur expérience professionnelle à qui on ne la fait plus et qui tout à coup deviennent peu à peu invisibles en société. Plus jeune, on nous agresse, plus vieille, on nous jette. Nous sommes à la fois coupables de susciter le désir et celui de ne plus faire bander. Quel programme! De viande fraîche à viande séchée pour terminer en viande froide, ceci est une expression journalistique qui désigne cet ultime papier sous forme de panégyrique pour une personne qui vient de trépasser. C'est à l'époque où nous passons de fée à sorcière, comme l'a écrit la sexologue Jocelyne Robert dans « Les femmes vintage ». Et la valse des hormones amène son lot de désagréments plus ou moins sérieux. J'ai lancé une bouée sur Facebook. Certaines m'ont envoyé des messages de détresse privée. Un homme aussi, désemparé de voir sa conjointe sombrer sans aide du corps médical. Ces femmes complètement larguées avec leurs symptômes de mégère, leur anxiété cyclique, leur insomnie chronique et leur vertige, leur acné gênante, leur trou de mémoire, leur bouffée de chaleur, leur peau sèche, leurs cheveux secs, le vagin sec, mais les yeux et le cœur humides. La léthargie, le spleen, la perte de libido, tout y passe. Tiens, une qui préfère demeurer anonyme m'écrit sur son calvaire dès 39 ans. Idées suicidaires, crise de panique paralysante, impression douloureuse d'être prise dans un étau, fatigue extrême de jour et énergie survoltée la nuit, dormir 2 ou 3 heures pendant des mois complets. Des années qu'elle décrit comme la grande noirceur. Les hormones semblent lui avoir sauvé la vie et la mémoire. Lorsque de la gynéco m'a tendu une ordonnance pour faire de la physio de la vulve, je suis restée pétrifiée. Pourtant, je n'abuse pas. Je suis mariée à un féministe andropausé qui pousse l'empathie jusqu'à se taper les sueurs nocturnes à ma place et surtout pas à un dragon alpha libidineux. On préfère la qualité en vieillissant. Effet secondaire de la ménopause, semble-t-il. J'étais déjà passé par la vestibulodynie à 23 ans, une affection dont on ne parle jamais et qui touche 21% des femmes. Et ne comptez pas sur moi pour vous l'expliquer ici, c'est mon côté niqab. Chacune ses pudeurs. googlez-vous un mot en V et faites-vous infuser une camomille. Finalement, j'ai réglé ça par moi-même avec de l'acide hyaluronique et des incantations de sauge. À 23 ans, j'étais passée au laser. Je suis même allée consulter une sorcière qui m'a donné une crème lubrifiante qui s'appelle Lubriva, à base d'huile de rose musquée et d'onagre. « Tu peux aussi t'en servir comme crème de nuit anti-âge », m'a dit la sorcière. « Vous devriez me voir le sourire. Je suis métamorphosée. » Chacune a son truc. Mon amie Suzanne, aujourd'hui, âgée de 76 ans, est allée consulter les herboristes, du Chinatown il y a 25 ans. Ils lui ont prescrit du ginseng et de la vitamine E. Elle hausse les symptômes durant 10 ans. Pour ma part, les hormones bioidentiques depuis 4 mois ont déplacé les problèmes d'insomnie, de manque d'énergie, de sécheresse, pour les transformer en anxiété, nausée, perte d'appétit et reflux. J'ai donc le choix entre la peste et le choléra. L'hormonothérapie est loin d'être une science exacte, chaque femme étant unique. Comme me l'a souligné ma médecin de famille, on se retrouve avec de nouveaux médicaments pour traiter les effets secondaires des premiers. Antidépresseurs, somnifères et anxiolytiques sont tous présents dans la pharmacopée de la femme de 50 balais, quand elle n'est pas carrément référée en psychiatrie. Nous sommes de bonnes clientes au département des folles finies ou à la SAQ. Si le chardonnay est efficace pour Hillary Clinton, ben c'est bon pour nous aussi. En désespoir de cause, je me suis inscrite à des cours de yoga hormonal. Si, on verra. Je me remets aux aiguilles chinoises et j'opte pour la tisane de framboisier. Une adepte m'a écrit que c'est ce qui l'a sauvée du naufrage. Ben, pourquoi faire simple quand on est né compliqué? Je cite Simone de Beauvoir, un extrait du deuxième sexe. La crise de la ménopause coupe en deux, avec brutalité, la vie féminine. C'est une discontinuité qui donne à la femme l'illusion d'une nouvelle vie. Se faire traiter de ménopausée est une insulte, n'en doutez pas. Je me rappelle la réaction outrée de la comédienne Anne Casabonne au Dieu de la danse, encaissant cette pique de Serge Denoncourt qui faisait sûrement de la projection. En principe, de la glorieuse trentaine, nous passons à la splendide quarantaine, puis à la souveraine cinquantaine et à la sereine soixantaine. C'est sans compter sur le DNBC, le déficit neurobiologique de la cinquantaine. La ménopause se vit dans un linceul de solitude car elle est synonyme de perte de pouvoir. Et les hommes sont le moins réticents à parler avec nous, les pauvres. Il faut que le mystère subsiste. Heureusement qu'il nous reste la sagesse et les groupes privés sur Facebook. Pour me dérider, je lis une apparition de la journaliste Sophie Fontanelle, une quinca courageuse qui a décidé de se laisser pousser l'arrêt et de vivre l'arrêt de la teinture en photoréalité sur Instagram. La Cruella la plus sympathique de Paris décrit avec humour la progression de son enneigement capillaire sans économie d'autodérision, de vérité et de complicité pour le genre féminin sur le déclin. Son délicieux récit est un cri de liberté qui va au-delà de l'esthétique, une reprise de soi qui nous révèle combien la pression sociale impose aux femmes d'être le miroir du jeunisme ambiant. Celles qui osent arborer une crinière blanche nous narguent en se rendant visible. Je ne le fais pas pour assumer mon âge, je le fais par renoncement à une puissance qui serait la jeunesse. Je le fais pour apparaître, dit Madame Fontanelle. Et que dit le docteur, lui? Lorsque vous m'avez diagnostiqué une pharyngo-laryngite de reflux lié au stress cet été, je me suis dit que j'étais en vacances depuis 3 semaines et que c'était bien étrange d'avoir l'estomac dans la gorge. Puis j'ai découvert que les hormones que je prenais étaient la cause de mes maux et des raclements énervants. Vous m'avez détecté aussi un type A, c'est-à-dire motivé, ponctuel et discipliné, pour expliquer ce stress. Je ne sais pas si cela fait partie de vos compétences, cher docteur, mais j'ai tout gobé. Et pour finir, la phrase qui tue. Les femmes de votre âge, avec une shape comme vous avez, sont toutes des compulsives. Voyez le problème avec les bonnes femmes. C'est toujours perdante-perdante. Nous faisons l'embonpoint, c'est notre faute. Nous sommes minces, ça l'est aussi. Personne jamais ne dira cela à un mec. Bon, un mec ne pleurerait pas non plus en sortant du bureau de médecin, je vous l'accorde. Ça doit être hormonal. Je vous prescris à mon tour un remède fort efficace qui illustre le deux poids deux mesures. C'est une vidéo de l'humoriste française Blanche Gardin. Avec elle, pas de sentiment. Elle vous remet les gonades mâles à leur place et à répéter au besoin. Voilà, je vais vous citer ma source pour l'excellent article que je viens de terminer. C'est de José Blanchette. Ça s'appelle « De retour après la pause ». Et c'était dans Le Devoir le 27 octobre 2017.
Toujours dans le magazine Nouveau Projet, je vous propose un court article qui s'appelle, et là je ne vais pas dire le mot parce qu'on est en onde, mais le F-Word, F-U-C-K, les 5 à 7. On pourrait dire ça à mort, les 5 à 7 plutôt. Et c'est un article de Catherine Lefrançois. Ah, la vingtaine! À l'époque, l'idée de l'activité sociale la plus drabe et la plus plate qui soit, c'était les 5 à 7. Cette maigre plage de 2 heures consacrée à boire du vin ordinaire, mais cher, quelque part où tout le monde a plus de 30 ans et travaille dans un bureau qui lui aussi est drabe et plate. Le 5 à 7, c'était la sortie du pauvre. Le pauvre en temps. Celui qui travaille de 9 à 5, qui se couche à 21 heures et qui ne dispose donc que de quelques 240 minutes de liberté le soir, sur lesquelles il faut encore qu'il mange, lave son linge et prépare son lunch pour le lendemain. Maintenant que je suis dans la trentaine avancée, une bonne partie de mon entourage et moi avons désormais des enfants. On s'est un peu calmé le party et les 5 à 7 sont devenus un mode de socialisation très fréquent dans mon réseau, même s'ils finissent parfois bien tard. Ah mais non, pas des 5 à 7 dans des bars. Là, une formule qui convient beaucoup mieux aux jeunes familles, whatever that means, dans la maison d'une amie style potluck. Les enfants sont plus que bienvenus. Plus ils sont nombreux, moins on a besoin de s'en occuper. Le 5 à 7 en milieu domestique se situe à la mi-chemin entre ces deux expériences, entre 3 amis et une bouteille, et 30 personnes, je meurs. Bref, entre le paradis et l'enfer. Attention, malheureusement, il va y avoir des amis de tes amis. Damn, tu ne les connais pas. Soit ils sont louches, soit ils sont vraiment cool, et alors tu dois faire bonne impression. Pour cette raison, tout le monde fait de son mieux pour montrer patte blanche. Tu fais quoi, toi? En moins, t'as des enfants, c'est lesquels les tiens? Ah, t'as un bébé en plus. Comment ça, tu l'as pas amené? Tu l'allaites pas? Insérez ici une question ou un commentaire glissant sur l'actualité qui vise à tester vos allégeances politiques et sociales. Bon. Une fois que tout le monde a décidé qui était digne de son intérêt et de son temps, arrive le temps de manger. Malheureusement, il y a aujourd'hui tout un tas de nouvelles tendances culinaires de foodies qu'il faut connaître pour apporter le plat qui va montrer que tu connais ça, la cuisine, et que bien manger et être en santé, c'est important pour toi. Ces temps-ci, c'est les plats dans un bol. Poké, bouddha, bim-bim-bal, dombouri. Ça s'apporte bien pas mal, par exemple. Les gars font de la cuisson sous vide. C'est un peu leur barbecue d'hiver. La cuisson sous vide, c'est exactement comme la mijoteuse, sauf que c'est plus compliqué et que c'est juste pour la viande. Il faut donc cuisiner les accompagnements à part. La mijoteuse, c'est pour les filles qui cuisinent la semaine, par obligation. Ça n'a donc rien à faire dans un 5 à 7. Bref, le plus souvent dans un 5 à 7, on est en représentation. C'est vraiment difficile de sortir de ça. Quand tu y amènes tes enfants, en plus, tu y performes ta maternité, pas le choix. Toi, t'es une mère cool, tu amènes tes enfants partout, au musée, sur les terrasses, dans des shows rock qui finissent pas trop tard, et bien entendu, dans des 5 à 7 chez tes amis. Pas question que tu arrêtes de vivre parce que tu as des enfants. Non. Tes enfants aussi sont cool. Ils apprécient l'art, les belles choses et la bonne bouffe. Sauf dans les 5 à 7, maudit, pas moyen de montrer qu'ils aiment ça, le saumon fumé, il y a de la baguette. Vous êtes tellement cool que vous allez rester plus tard que prévu. Les enfants vont se coucher passé 10 heures et le lendemain, ils seront pas du monde. T'es vraiment cool, mais tu vas le payer cher, ton 5 à 7. Pardon. Tu vas te lever quand même avec ton bébé à 6 heures. Peut-être même qu'il va avoir demandé à boire à 2 heures. Qui sait que les grandes ne vont pas se lever plus tard que d'habitude et qu'elles vont avoir une humeur de cochon toute la journée. Humeur qui va t'accompagner à merveille ton petit mal de tête. Finalement, c'est mieux d'aller au bar direct en sortant de la job, puis de laisser les enfants à la maison. Et c'était un article de Catherine Lefrançois dans Nouveau Projet. Et c'était parfait pour ce vendredi qui est souvent la journée des 5 à 7, justement. Hélène, à toi.
Merci, Catherine. Voilà, je vais poursuivre encore avec ma source, Le Devoir. Je vais vous lire cette fois-ci un texte de Aurélie Langteau. C'est une chronique, c'est L'amour du monde. Le 20 octobre 2017, je crois que je l'avais dit. Le déni d'humanité, c'est ce qui m'a d'abord frappé dans l'affaire de Harvey Weinstein. Des femmes qui, entre les mains d'un prédateur, deviennent des choses indifférenciées, manipulées, agressées, puis jetées, après qu'on eût tiré des revenus de leur talent ou de leur charme. Cette indifférenciation est un procédé qui prévaut souvent lorsqu'il est question de violences faites aux femmes. Des dizaines d'actrices harcelées, 1200 fans autochtones disparus, toutes les femmes harcelées dans la rue, leurs existences et les voix se confondent. À toutes ces femmes, il est arrivé quelque chose. La forme passive qui désincarne la violence et l'absous du même geste. L'effacement du sujet féminin est vieux comme notre civilisation. Nier aux femmes leur humanité, afin d'ériger le pouvoir sans elles et à leurs dépens. Le monde s'est construit grâce à leur sueur, leur sang, leur lait, leur travail et trop souvent leur silence. Et pourtant, ils ont été confinés à l'espace privé. Leur parole a été confisquée, on a obsédé sur le contrôle de leur corps, tout en réservant aux hommes le droit d'y accéder. Les luttes ont été longues et les progrès nombreux, mais force est de constater qu'il reste des vestiges de temps plus sombres. Voilà des hommes qui, en 2007, harcèlent, agressent, abusent de leur pouvoir, car tout autour d'eux renforce la promesse glauque que la gloire, l'argent et l'influence confèrent un pouvoir sexuel étendu sur celles et ceux dont la voix porte moins. Un ancien collaborateur d'Harvey Weinstein l'a parfaitement résumé. Il a dit ceci, « Mais tout le monde le savait. Mais personne ne voulait mordre la main de celui qui nous gavait de caviar. » Faut-il être surpris? Le modèle de masculinité qui prévaut repose précisément sur l'idée que c'est en cultivant l'ultra-virilité, en répudiant la vulnérabilité et en adoptant des comportements agressifs et dominants qu'on fabrique des vrais hommes. Quant à l'impunité, c'est une montagne qu'il faudra déplacer. C'est ce que je me disais en voyant Bertrand Cantat posé en dindé obscur sur la couverture des In Rocks pour introduire une entrevue dans laquelle on n'évoque pas une seule fois le nom de Marie Trintignant, celle qu'il a assassinée à coups de poing en 2003. Il a payé sa dette, dit-on, certes, et je crois en la réhabilitation, mais en lisant le rectificatif mou adressé par les In Rocks à leur lecteur, je me disais que cette histoire nous parle moins de réhabilitation que du statu quo pétri de misogynie qui pousse à détourner le regard devant la violence. Il faut réformer nos lois et nos institutions. Il faut aussi déconstruire la masculinité toxique, insister sur l'éducation au consentement et reconnaître qu'il y a une part du chemin qui ne peut être franchie qu'entre hommes pour que certains comportements deviennent inacceptables aux yeux de tous en tout temps. On a dit ces choses 100 fois. L'élan doit maintenant nous porter plus loin. Et cette fois, il semble qu'une fenêtre se soit ouverte grâce au courage de celles et ceux qui ont parlé dans la foulée de Carré, moi aussi. Amor Mundi, l'amour du monde. C'est le titre qu'aurait donné Hannah Arendt à La condition de l'homme moderne, n'eût été l'intervention de son éditeur. Cet amour du monde désigne l'attention qu'on accorde aux autres et au monde qui nous est commun. Or, notre rapport à la violence intime, tressé de déni et de banalisation, témoigne d'une crise profonde de la solitude, de l'empathie et de la solidarité, d'un renoncement à faire de notre monde un lieu habitable pour tous, pas seulement les plus forts. Voilà ce qu'il faut repenser. La violence sexuelle doit être comprise comme le symptôme d'une organisation sociale malade qui cultive un rapport malsain aux hiérarchies, au pouvoir et qui se reproduit par l'asservissement des femmes, des personnes vulnérables et de la nature. Cette crise loge aussi dans le mépris des fonctions qu'on a traditionnellement assignées aux femmes pour les reléguer à un rôle d'auxiliaire et minoriser leur voix. Les hommes demandent souvent ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au changement. La réponse se trouve au plus près de nous. Rendez visible le travail qui ne l'est pas. Attestez les douleurs qu'on ignore. Tendez l'oreille. Retroussez-vous les manches. Nourrissez, soignez, élevez. Prenez conscience que le pouvoir s'érige souvent sur le dos et les efforts de ceux et celles qui, aujourd'hui, dénoncent la violence, de ceux et de celles pour qui il est trop coûteux, trop risqué de parler. Notre tâche est désormais de reconnaître notre environnement humain comme une écologie à soigner afin de guérir et d'avancer enfin. Les femmes, et plus particulièrement les féministes, le disent depuis longtemps. Il est grand temps de les prendre au sérieux. Je vous rappelle, le texte que je viens de lire vient du Devoir de Aurélie Langteau, 20 octobre 2017. Ça s'intitulait « L'amour du monde ». Je vais poursuivre avec un autre très beau texte de Louise Latraverse et ça s'intitule « L'amitié ». Écrire simplement ce mot, ma tête tourne, valse, des visages jaillissent, une folle envie de les embrasser tous tout de suite, là. Ceux qui m'ont fait rire, qui m'ont ébranlé dans mes convictions et mes doutes, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont fait pleurer, ceux que j'ai blessés, ceux qui m'ont relevé dans la peine et les creux, ceux que je ne vois plus, et les fidèles et résistants sur ce qui je peux encore compter. Ceux qui sont disparus, qui ne reviendront plus, je m'adresse souvent à eux. Oui, oui, je parle à mes morts. Chaque jour de ma vie a été nourri d'un rire, d'un geste, d'un mot de ces merveilleux fous qui vont et viennent me faire un clin d'œil, m'engueuler, m'informer, m'aimer, m'amuser, se moquer et repartir de plus belle. Je voudrais courir une courte pointe avec leurs beaux visages et quand ils me manquent, m'abriller la nuit de leur présence. L'amour, l'amitié se sont encroisés dans ma courte vie. L'un et l'autre étaient intenses, précieux, parsemés de rires et de pleurs. On ne fait pas l'amour avec ses amis. Ouf, heureusement, c'eût été épuisant. Je me suis retrouvée amoureuse du même homme que mon tendre ami zieutait depuis un moment sans m'en parler. Le sort allait décider pour nous tous. Des fous rires devant cette cocasserie. La fête, toutes les fêtes, l'incessant tourbillon. Dormir était une punition. On n'arrivait pas à se quitter. Les matins pesaient lourds de conséquences annoncées pour la pauvre journée qui nous attendait. Les amitiés qui n'ont pas tenu, celles dont le temps ne voulait pas, les maladresses répétées, l'impatience qui rôdait. Plus possible de raccommoder les différends, l'usure étant installée. Nous étions à chercher à comprendre à quel moment le fil s'était rompu, la culpabilité, sombre compagne des pourquoi et des comment qui resteront sans réponse, dans l'oubli. Les épreuves qui isolaient, le chagrin et les longues traversées du désert pour se refaire et continuer. Comment rester debout quand tout s'écroule? Quand la maladie et la mort de ceux qu'on aime nous figent sur place, nous interdisant de continuer à vivre ce que l'on appelle la vie normale, cette façon d'exister que je ne connais pas. Bouger le moins possible pour ne pas heurter la fragilité ambiante, attendre patiemment, fixer le plafond, se décider à appeler l'ami dont la voix et les mots apaiseront la douleur ardente. Il y en a eu, il y en aura encore. L'amitié, cette étonnante capacité de se renouveler et de réapparaître fortuitement. Ces mains tendues que j'ai accueillies et serrées si fort. Ces mains porteuses d'amour, de présent, de « viens, on va aller faire un tour ». L'écoute de mes amis, l'oreille aussi grande que le cœur. Des heures et des heures à parler, à nommer, à cracher les mots douloureux, étouffants, jusqu'à ce qu'il ne résonne plus. L'ami qui recevait et prenait tout. Le frère et la sœur sont devenus des amis précieux. Le temps du bilan familial enfin dépassé. Les amis éparpillés qui reviennent, la joie de se retrouver des années plus tard et de reprendre la conversation au téléphone comme si elle n'avait jamais été interrompue. Je ne sais pas pourquoi ce genre d'appel survenait le soir. C'est dans l'ombre que les cœurs causent, dit Paul Géraldi, le poète préféré de ma mère. Nous voilà repartis à se compter nos peurs, nos bons coups, l'envie de se revoir plus vite. Des rides avaient eu le temps de sculpter nos visages. On se regardait avec toute la tendresse du monde, plus beau, plus touchant, plus aimant. Je suis faite d'eux, de ces moments de complicité, d'intimité, d'intensité, de bambochage, de prise de bec, de voyage, de partage, de livres, de maisons, de linge, de musique, nouvelle et ancienne, de spectacles, de tracts, de bonne bouffe, de conférences prolongées jusqu'à la nuit. Je voudrais disparaître en même temps que ceux que j'aime. On le dit tout haut quand on est enfant, on le pense tout bas devenu grand. Mes amis, ma mémoire, vous êtes précieux, beaux, drôles, intelligents, aussi fous que moi, parfois. Je vous aime, vous l'avais-je dit.
Merci beaucoup, Hélène. Et c'est ce qui va conclure cette émission des Voix de service magazine. On se voit vendredi prochain. Bon week-end à tous et à toutes.
Au revoir, à la semaine prochaine.